Avec l'arrivée des variants britanniques et sud-africains du virus, il y a plusieurs questions qui se posent sur l'efficacité des vaccins, sur la contagiosité du coronavirus. On fait le point immédiatement avec Nathalie Granvaux, qui est professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Des experts prévient... Docteur Granvaux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc d'abord, clarifions les termes, OK? Je pense que c'est important d'y revenir. C'est quoi un variant?
Un variant, en fait, c'est une forme du virus qui présente ou son génome, en fait, son l'équivalent de notre ADN à nous, présente des mutations qui apparaissent de manière naturelle parce que le virus, quand il se multiplie, ben, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est un virus qui a un peu muté, comme on dit.
Donc, est-ce qu'on peut comparer ça à disons, aux souches de la grippe saisonnière?
Oui, ben en fait, quand c'est des souches, c'est vraiment des mutations, des changements beaucoup plus importants que ceux auxquels on a affaire dans les variants du coronavirus ici. Donc, le principe de base est le même, mais l'étendue de la modification est très différente.
Juste pour être clair, le variant, c'est, disons, moins grave que la souche de la grippe saisonnière, c'est ça?
En fait, c'est pas une question de gravité, c'est une question de d'étendue. En fait, c'est comme si vous preniez deux personnes puis vous disiez dans une famille, ben lui c'est mon cousin, puis l'autre ben c'est mon grand cousin de très loin, de trois générations différentes. Okay. Vous voyez, fait que c'est le côté qui sont plus ou moins apparentés l'un à l'autre. Dans la grippe, les différentes souches sont quand même plus éloignées, alors que pour les variants dont on parle là, ils sont très apparentés quand même.
Ok, il y a des experts là qui préviennent que le variant britannique est une plus grande menace qu'on le croit. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé-là?
Ben, en fait, les données dont ils parlent sont très préliminaires et ne permettent pas vraiment d'interpréter ça. Mais il y a une chose qui est sûre, oui, la conclusion finale, c'est « est plus dangereux ». La cause est plus difficile à cerner, mais à partir du moment où on a un variant du virus qui se propage plus vite, puis celui du Royaume-Uni, c'est très, très clair qu'il se propage plus vite. S'il se propage plus vite, on se retrouve avec plus de cas. Donc, plus de cas veulent forcément dire qu'on va toucher plus de personnes vulnérables, donc plus d'hospitalisations et plus de décès. Donc, peu importe la cause, il est plus dangereux à cause de ça.
OK. Donc, c'est pas que le variant lui-même est plus mortel, mais comme il infecte plus de personnes, bien forcément, on va avoir plus de mortalité.
Mais ça, c'est ce qu'on peut dire avec certitude. Pour la sévérité de la maladie associée, pour l'instant, les données sont trop préliminaires pour pouvoir faire des conclusions certaines de ce côté-là.
Qu'est-ce qu'on sait sur la présence du variant britannique au Québec?
Au Québec, en fait, ce qu'on a su jusqu'à maintenant, c'est qu'on a dépisté en fait 5 cas du variant britannique. Il y en a 3 qui résultent de la même contamination d'une personne qui... c'est une famille, en fait, avec quelqu'un qui revenait du Royaume-Uni, puis la famille a été contaminée. Donc, c'est les 3, puis ils ont été isolés. Puis, il y a 2 autres cas. C'est ce qu'on sait à l'heure actuelle.
OK. Vous connaissez mieux les virus que moi, puis la moyenne de mes auditeurs. Mm-hmm. Est-ce que le Québec peut être, disons, à l'abri de ce variant-là, ou c'est juste une question de temps avant qu'il arrive en masse au Québec?
Bien, en fait, ce qui m'inquiète beaucoup par rapport à ça, c'est les nouvelles qu'on a eues d'Ontario avec les résidences qui sont contaminées avec ce variant-là, qui me font dire qu'il circule à un plus haut niveau que ce qu'on a dépisté pour le moment. Et que donc, à partir du moment ben, où on a de la circulation à l'intérieur du pays, ça va être difficile de se protéger de l'arrivée de ce variant-là ici, s'il est déjà en Ontario de manière aussi importante avec des foyers d'éclosion comme ceux qu'on a vus malheureusement la dernière semaine.
OK. Ces variants-là, à quel point c'est un défi pour les fabricants de vaccins?
Jusqu'à maintenant, les données sont assez rassurantes. Habituellement, quand on a des variants, il faut qu'ils s'assurent que leurs vaccins vont continuer de fonctionner. Là, les données qu'on a, en fait, qui sont encore très limitées, mais quand même rassurantes sur certains points, que ce soit le vaccin de Pfizer ou de Moderna, les premières données de mesures d'anticorps, etc., qui ont été faites, montrent qu'ils réagissent, en fait, qu'ils sont capables d'avoir le même effet sur le variant du Royaume-Uni que sur les autres virus. Un variant qui vient d'Afrique du Sud, par contre, pour lequel on n'a pas de données réelles pour le vaccin de Pfizer, mais celui de Moderna, il y a une petite diminution dans la réponse immunitaire contre ce vaccin, mais la réponse immunitaire avec les paramètres qu'on a pu mesurer pour l'instant est encore suffisante pour a priori protéger les gens, mais c'est très préliminaire, il va falloir le confirmer. Mais je dirais que pour l'instant, c'est quand même relativement rassurant.
OK, je sais que vous ne voulez pas commenter sur le dossier de la colchicine là, qui a été développée à l'Institut de cardiologie parce qu'on n'a pas encore toutes les données. Mais justement, j'aurais voulu que vous départagiez là, tout le côté, disons, de l'espoir qu'on fonde dans ce traitement-là et de ce qu'on en sait présentement. Si je comprends bien, professeur Granvaux, présentement, on n'a pas les données qui donnent à penser aux chercheurs qu'il y a de l'espoir.
Non, ben écoutez, on en a discuté souvent ensemble aussi, puis toutes les choses qu'on a dites, c'est qu'il faut se baser sur des données publiées qui soient analysables par les pairs pour pouvoir savoir. Je vais vous reprendre, peut-être revenir dans le passé avec une molécule qui s'appelait le remdesivir, puis on a eu des communiqués de presse qui nous disaient que ça protégeait de l'ordre de 30% les hospitalisations, puis au final, on se rend compte plus tard, en ayant eu les données, puis des études plus larges, qu'il n'y a pas d'effet. Donc, moi, je veux y croire, puis je veux que ça marche hein, pour les patients, pour tout le monde, pour nous tous. Je veux que les données de la colchicine soient vraiment très sérieuses et très bien faites et qu'on ait une molécule qui va protéger. Fait que l'espoir est là, puis j'y crois, j'ai aucun doute sur la bonne foi. C'est pas du tout ça la question, c'est que c'est difficile d'aller commenter et de dire oui, les données supportent vraiment que c'est une molécule qui va pouvoir aider les gens quand on n'a pas vu les données. Fait que moi, je peux pas analyser de manière scientifique tant que j'ai pas vu les données.
C'est pas la première fois qu'on voit des. C'est pas la première fois, professeur Granvaux, qu'on voit dans tous les pans de cette pandémie, là, qu'importe quel pan de la science était à l'œuvre, qu'on voit beaucoup d'espoir par rapport à des travaux qui n'ont pas encore été publiés, qui n'ont pas encore été analysés de façon, disons, objective par des pairs. Comment ça se fait qu'on entend parler d'études qui sont porteuses d'espoir, mais qui ne sont pas encore avérées?
Écoutez, il y a eu l'effet du début qui était que la communauté voulait donner les résultats très, très rapidement pour pouvoir, faire accélérer les traitements parce qu'on était dans l'urgence. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. Puis, on l'a appris, en fait, à nos dépens qu'il ne fallait pas faire ça parce que finalement, on créait de l'espoir et on ramènera l'hydroxychloroquine, on créait des situations qui étaient pas viables, même pour les patients qui prennent ces médicaments-là habituellement. Ici, dans le cas de la colchicine, c'est un petit peu différent. En fait, je pense que ce qui est très bien fait, c'est qu'ils ont soumis l'étude pour une évaluation par les pairs pour pouvoir avoir une évaluation avant de les montrer. Puis ça, je respecte ça, puis je pense que c'est la bonne chose à faire. Par contre, est-ce qu'il faut aller en communiqué de presse avant? C'est ça qui est discutable, mais on a vu ça tout le temps. Puis moi, je pense qu'il faut faire très attention quand même, mais j'ai très hâte, je vous avouerai que j'ai très hâte de voir les données.
Merci beaucoup, professeur Granvaux. Bonne soirée.
Merci à vous.